conférence spirituelle par le Père Marie-Dominique Philippe le 5 juillet 2002 à Saint-Judas.
Nous sommes arrivés au terme, au port. Je vous remercie d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ces quelques jours, trop brefs, puisque on aimerait de pouvoir jusqu'au bout expliciter tous ces aspects de la personne. Mais en fait, ça aide à entrevoir au moins que la personne joue sur le point de vue de l'être, le point de vue de la vie et la finalité, le point de vue de l'homme maître du monde, de l'homme qui peut fabriquer et compléter la création et voir la complexité de l'homme. Et je voudrais, dans cette dernière conférence, terminer sur, justement, la grandeur de la personne divine en nous. Comme l'achèvement divin. Dieu a créé l'homme comme, je crois, comme son chef-d'œuvre. Sûrement que Marie est le chef-d'œuvre de Dieu. Et elle est ce qu'il y a de plus grand. Et tout le gouvernement divin est en quelque sorte ordonné vers ce chef-d'œuvre. Je crois que le gouvernement divin s'achève dans la personne et non pas dans la communion. L'Église représente le milieu dans lequel s'épanouit la personne. Et la personne est immédiatement reliée à Dieu, alors que l'Église l'est par des médiateurs. Le pape a une médiation infaillible. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en dehors de cette infaillibilité, on voit tout de suite des très grandes variétés. C'est si difficile de maintenir au point de vue pratique, au point de vue surnaturel et humain, de maintenir la vérité plénière. Et dans ce monde, dans l'Église, l'homme est appelé être enfant de Dieu. Notre personnalité divine est relative à celle du Christ, le Fils unique et bien-aimé du Père. C'est ça qu'il y a de si extraordinaire. C'est pas seulement une vie humaine très exaltée. C'est une vie humaine qui plonge dans l'éternité et qui rejoint le mystère intime de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Vous voyez la tentation, hein, de dire Dieu est trois personnes, donc c'est l'aspect communautaire qui est le mystère de la très sainte Trinité. Ce n'est pas une personne, ce sont les trois personnes. Et c'est vrai, ce sont les trois personnes. Alors, on doit retrouver dans l'Église aussi comme une image de la très sainte Trinité. Et donc, comme une espèce de vision communautaire qui passe avant la vision personnelle d'enfant de Dieu lié au Fils et par le Fils au Père sous le souffle de l'Esprit-Saint. La Trinité habite en nous. Elle habite en nous. Elle est au-delà de nous et elle habite en nous. Et ce qu'il y a de plus secret en nous, notre secret, c'est cette habitation de la très sainte Trinité en nous. Et cette habitation de la très sainte Trinité, est-ce qu'elle nous fait vivre l'aspect trinitaire ou l'aspect unique de Dieu? L'aspect trinitaire et l'aspect unique ne font qu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Alors l'Église, qui est fille de Dieu, fille du Père, épouse du Christ, et amie de l'Esprit-Saint, est-ce que l'Église, en chacun d'entre nous, est-elle personnelle? Est-elle communautaire? L'amour du Père est unique en chacun d'entre nous. C'est le lien avec le Père, c'est secret. Le lien avec nos frères, c'est le même commandement et c'est même extrêmement curieux. Je me souviens, c'est une des premières choses qui m'avait le plus frappé dans le commandement de Dieu, c'est qu'au début de l'Écriture, un seul Dieu tu adoreras. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le Dieu unique. Et c'est la relation avec ce Dieu unique qui est la sainteté. Au terme de la révélation, l'épître de Saint Jean, l'amour semble passer avant tout, au-delà de l'adoration, un seul Dieu t'adorera, et aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Est-ce que l'amour de Dieu demeure toujours pour nous la grande béatitude, ou est-ce que c'est l'amour à l'égard du prochain? L'amour à l'égard du prochain, au point de départ de l'Écriture, est très distinct. Avec Jésus, il devient le même commandement. Et avec Saint Jean, il semble le dernier qui prend tout. On peut faire cette courbe. Alors, on peut se demander, on peut se poser la question, ce n'est pas inutile de la poser, puisque certains sont posés cette question, et il semble que pour eux, la fin dernière, ce soit l'ensemble des bienheureux, la communauté ecclésiale des bienheureux, qui est le tout. Ou est-ce que le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton amour, demeure bien le premier commandement, et demeure bien le premier effet de la béatitude. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer le Dieu trine, et que l'amour à l'égard du prochain en découle directement. Si on aime Dieu de tout son cœur, on ne peut qu'aimer le prochain de tout son cœur. Et le commandement de l'amour, de la charité fraternelle ne fait qu'un. Il y a cette tendance, elle existe. Je me souviens, quand j'étais jeune théologien, il y avait un père qui prétendait que la vision béatifique était communautaire. J'avoue ne pas très bien voir. La très sainte Trinité est personnelle. Elle est trinitaire et personnelle. Qu'est-ce qui est premier ? On ne peut pas se demander. C'est dans l'égalité, dans l'unité. Alors pour nous, il doit y avoir quelque chose de semblable, puisque nous sommes fils de Dieu. On peut donc distinguer notre béatitude, voir Dieu, et en même temps, cet aspect trinitaire, notre prochain, tous nos prochains, les voir dans la vision de Dieu, et être un avec eux. Mais il y a toujours les deux. Et qu'est-ce qui est premier ? Ils sont un. Il y a comme deux aspects de notre vie chrétienne que nous ressentons toujours. L'aspect de l'unité, nous aimons le Père comme Père, comme unique Père de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre intelligence. Et nous aimons le Fils également. Et dans le Fils, nous aimons tous nos frères. Je ne peux pas dire que la vision béatifique consiste à contempler personnellement notre frère dans sa béatitude. Non. Nous contemplerons Dieu directement. Et en contemplant Dieu directement, nous aimerons tous ceux que Dieu aime. Mais il y aura toujours cet ordre. Dieu sera toujours pour nous premier. Et l'amour de Dieu sera tel qu'on pourra aimer comme Dieu aime. Et comme Dieu aime, c'est-à-dire que le Père s'aime et aime le Fils dans le même amour. Et dans le même amour, nous aimerons notre Dieu, notre Père, et tous nos frères. dans un amour contemplatif. Mais on ne peut jamais séparer. On ne peut pas dire que notre Trinité sera communautaire, ecclésiale. Non. Notre vision béatifique sera personnelle. Mais d'une personnalité toute autre que la personne humaine. Et cependant, Dieu veut que notre corps soit un corps qui un jour soit glorifié pour qu'il puisse vivre lui aussi à sa façon de la gloire éternelle de Dieu. C'est merveilleux cette miséricorde de Dieu pour notre corps. On voudrait bien que ce soit comme ça ici-bas. Et c'est pas comme ça. Parce que notre corps n'est jamais sublimé d'une façon telle que notre vie avec Dieu se continue dans notre corps. Non. Ici sur terre, nous comprenons bien que notre corps est nécessaire pour nous, mais il est secondaire. Notre amour pour le Père est au-delà de notre corps. Et cependant, l'amour que nous avons pour notre corps demeure toujours. Voyez comme c'est délicat. Parce que l'amour est au-dessus de notre intelligence. Elle peut le dépasser. Elle est au-dessus dans le sens qu'elle touche la fin. Alors, ce mouvement extatique de sortie de nous, d'atteindre quelque chose de plus grand que nous, se trouve en premier lieu à l'égard de Dieu. Et se trouve aussi à l'égard de l'Église, à l'égard du prochain. Ici-bas, nous sommes tous tendus vers cette béatitude, vers cet achèvement, vers cette plénitude. Et notre Seigneur a voulu nous donner les diverses notes de cette béatitude sur la terre. Bienheureux les pauvres. Jésus, dans le sermon sur la montagne, montre comment déjà, dès ici-bas, nous avons comme l'avant-goût de ce que nous vivrons éternellement. Et c'est le fameux discours des béatitudes. Matthieu 5, verset 3. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, parce qu'ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Voyez, les béatitudes prennent tout notre être. Et chacune des béatitudes représente ce qu'est la personne chrétienne. Nous vivons toutes les béatitudes quasi en même temps dans notre vie, mais nous vivons surtout de telle ou telle béatitude. C'est notre sainteté propre. Notre sainteté, c'est notre personnalité chrétienne. Regardons bien cette première béatitude. Ce n'est pas le hasard pourquoi c'est la première. C'est celle qui donne la note et qui est présente dans toutes les autres béatitudes. Je crois qu'il n'y a pas de sainteté chrétienne. On n'a pas de personnalité chrétienne sans vivre cette première béatitude. Bienheureux les pauvres. Les pauvres en esprit. Les pauvres au sens plénier, vécus dans l'amour. Ceux qui sont vraiment pauvres. Aucune richesse. Bien. On a tout donné à Jésus, tous nos biens, tous les biens intellectuels, comme les biens physiques, matériels. On l'a tout donné, au moins en esprit. On ne peut pas tout donner ce que nous possédons matériellement, le donner entièrement à Jésus, parce que nous avons une famille à élever et il faut que cette famille puisse posséder les biens de la terre. Nous avons un métier à avoir et nous devons avoir certaines qualités. Ce sont des qualités, c'est une richesse. Et Dieu ne nous demande pas d'abandonner cette richesse. Dieu, au contraire, veut que nous l'ayons, que nous devenions des ouvriers compétents, des travailleurs en qui on peut mettre toute notre confiance. On sait bien qu'on pourrait toujours avoir une vie matérielle plus pauvre, des repas plus pauvres, mais il faut vivre et ne pas dégringoler. Tant que nous sommes sur la terre, les béatitudes sont vécues au plus intime de notre cœur, comme l'aspiration profonde de notre cœur. Il faut que nous soyons dépouillés de toute richesse humaine, de toute richesse acquise, de toute richesse matérielle. Il faut que nous en soyons complètement dépouillés, que ces richesses n'empêchent jamais plus notre âme de s'élever. Les richesses de l'esprit viennent très souvent limiter nos désirs. Les richesses matérielles nous rendent plus pesants. On risquerait de déformer cette soif de béatitude si on aimait trop les biens de la terre, les honneurs, le renom, avoir un nom, que les gens s'inclinent devant nous, que les gens nous respectent. On risque toujours d'avoir quelque chose qui nous arrête dans notre élan de pauvreté. Et pourtant, nous savons qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, dans l'Église, si on n'a pas le cœur et l'intelligence du pauvre, si on convoite les richesses du voisin, richesses matérielles ou intellectuelles, si on s'enrichit. La béatitude des pauvres, elle est merveilleuse, mais elle est rude. Vivre pauvrement au milieu d'un monde riche, terriblement riche. Et vivre comme des pauvres qui n'ont plus rien. Rien à eux. Et qui acceptent de ne rien avoir. Avoir l'essentiel simplement pour vivre. C'est très très fort, hein, cette béatitude des pauvres. Jésus montre toute la différence qui existe dans l'ancienne alliance et la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, la richesse était un signe de la bienveillance de Dieu sur nous. Si on avait de la richesse intellectuelle, de la richesse matérielle, de la richesse spirituelle, c'était parce que Dieu était là qu'il écoutait notre prière. C'est très beau, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui va encore plus loin. Et qui va beaucoup plus loin. C'est d'être dépouillé de ses richesses pour connaître la vraie pauvreté d'esprit. Et en face de Dieu, qui vit en face de Dieu, nous remettons notre cœur pour qu'il soit divinement appauvri. Et sinon, nous ne revenons pas tout le temps sur ces béatitudes. C'est très curieux comme ça pousse vite d'être propriétaire, d'avoir sa bibliothèque, d'avoir ses livres. Au Moyen-Âge, les sculpteurs, les statues, ne signaient pas parce qu'elles étaient pour le temple de Dieu. Aujourd'hui, les éditeurs exigent que les auditeurs délivrent sur les choses divines, sur les réalités divines, inscrivent leur nom. Voyez, comme le démon est intelligent, il veut qu'on reste attaché à des biens terrestres. Et par le fait même, on a beaucoup de peine à vivre la béatitude des pauvres. On ne les vit pas pleinement. On ne les vit pas divinement. Pourquoi y a-t-il cette béatitude des pauvres ? Pour que notre âme soit plus libre et puisse désirer recevoir de Dieu tous ses biens, tous les biens que Dieu lui-même désire nous donner, et que nous soyons comme enfermés dans ses biens divinement. Dieu veut que nous n'ayons pas de biens humains acquis qui nous encombrent. Dieu veut que nous soyons revêtus des biens mêmes du Christ et que toute notre richesse se soit dans ces biens divins. Nous prennent et qui nous font fils de Dieu. Si Dieu veut qu'on soit pauvre d'esprit, qu'on vive des biens que Dieu nous donne matériellement pour élever une famille, Dieu veut que nous gardions l'esprit de pauvreté. Et que nous désirions être pauvres en esprit pour réclamer sa richesse, pour réclamer ses biens, pour les recevoir en plénitude. Si Dieu nous demande d'être des pauvres, c'est pour être comme des mendiants de Dieu, et être dans la joie tout ce qu'il nous donne. Et ne pas considérer ce que Dieu nous donne gratuitement, bénévolement, comme des biens dus à notre intelligence, à notre travail, à nos capacités. Et alors on s'enferme en soi. On n'est plus porté par l'Esprit Saint. Veni pater pauperum. En s'adressant à l'Esprit Saint, viens auprès de nous, Père des pauvres. C'est l'Esprit Saint qui nous rend pauvres, divinement pauvres. C'est grand. Vous voyez, à première vue, la béatitude chrétienne, la personne chrétienne qui se donne à travers les béatitudes semble être en contradiction avec la personne, la personnalité humaine. Et ce n'est pas vrai. La personnalité chrétienne, les béatitudes, sont un dépassement. Ça ne s'oppose pas comme étant sur la même ligne, dans le même rang. Ça ne s'oppose pas dialectiquement, mais ça la dépasse. Notre cœur ne demeure pas dans les biens terrestres. Notre cœur demeure dans les biens divins. Et c'est cette liberté profonde du cœur qui fait la personnalité chrétienne et qui lui permet d'être dans un état de dépendance complet à l'égard du Christ, à l'égard du Père. Le chrétien demeure toujours dépendant de Dieu dans ce qu'il a de plus profond. Il n'aime pas de posséder, il désire être entièrement dépendant de Dieu, relatif à lui. Voyez, la béatitude chrétienne et la sainteté chrétienne, la personnalité chrétienne, n'est pas du tout en opposition. Même si, verbalement, elle semble être en opposition, en réalité, c'est un dépassement. Et c'est le dépassement de l'amour. La sainteté, elle est dans la victoire de l'amour sur toutes les luttes, sur tout ce que nous possédons en nous. Elle réclame de nous ce dépassement et cette victoire. C'est une victoire permanente de l'amour. C'est ça, la sainteté chrétienne. Tout ce qui est humain doit servir au divin, doit servir au Christ, parce que le Christ est le roi de tout ce qui est humain, et tout ce qui est humain doit lui être offert. C'est vraiment ce dépassement de la personne humaine dans une dépendance étroite avec Jésus, avec le Père, sous le souffle de l'Esprit-Saint. Nous allons chanter une dernière fois le Salve Regina en remerciant Dieu de ces quelques jours passés ensemble. Et j'étais encore plus heureux que vous de pouvoir être parmi vous et de voir combien vous aviez soif de connaître ce qu'est la philosophie, et combien vous aviez encore plus soif d'être de vrais enfants de Dieu.